Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la joie et la paix en plénitude dans son cœur et dans sa vie. Frères et sœurs, levons-nous pour chanter Dieu avec le premier répon indiqué dans le livret liturgique « Bénissons Dieu le seul Seigneur ». Éternel notre Dieu, c'est de toi que nous recevons l'espérance dans ce monde troublé. C'est de toi que nous recevons le secours au milieu des épreuves. C'est de toi que nous recevons l'amour au milieu des divisions. Tu es le Dieu qui aime. Tu es le Dieu qui donne à l'humanité les paroles nécessaires pour lutter contre l'anéantissement. Alors, béni sois-tu. Amen. Et chantons le psaume indiqué, le psaume 100, dans sa version B, les strophes 1, 2, 3. De mémoire, ce n'était pas le psaume 100 que j'avais choisi ici. Si, si, psaume 100, ça semble bien. C'est dans l'évangile selon Jean que nous entendons ces paroles mises dans la bouche de Jésus. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Et que votre joie soit parfaite.
Thank you.
joie parfaite, comme nous en sommes loin en vérité. Nous la recherchons à tâtons, cette joie parfaite, tant la nuit est épaisse. Oui, cette semaine, il y a eu des instants de grâce, des moments où le chagrin a été transfiguré par un visage ami, par un sourire chargé d'humanité, par une attention gratuite. Mais Éternel, nous te demandons d'entendre notre détresse, nos doutes, vois nos égarements, et viens répandre en nous la grâce de ton amour. Amen. Qu'est-ce donc que recevoir le pardon de Dieu ? Eh bien, selon les textes bibliques, et en particulier selon le Deutéronome, recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie. Oui à la vie tout entière. C'est accepter de déposer devant Dieu le poids de nos inquiétudes, peut-être de nos erreurs. Considérer qu'hier est passé, que demain n'est pas encore, et qu'aujourd'hui, il s'agit de profiter de la vie, comme dirait Coëlette, l'Ecclésiaste. Profiter de la vie que Dieu nous donne, c'est-à-dire profiter d'une vie chargée de sens, d'une vie possiblement jouissive. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, avons-nous l'habitude de dire. Eh bien, l'Évangile est un long et patient écho de ce pardon. De ce pardon qui nous invite à dire oui à la vie tout entière, oui jusqu'à la vie éternelle. Alors, levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Carole et Cédric ont souhaité que leur fille, leur deuxième fille, reçoive le signe du baptême. C'est une façon pour eux de les inscrire dans une communauté de foi, et notamment dans cette communauté-ci. Et cette communauté-ci, sous la plume de Pierre Fatt, qui fut pasteur ici même, avait composé une confession de foi qui est devenue traditionnellement la confession de foi de l'oratoire, et je vous invite à vous associer à ces mots. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde violent est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place, à l'exception des parents de Lauriane et de Mireille, qui viennent avec Isée. Très bien. Voilà, vous avez donc souhaité qu'Isée s'inscrive elle aussi dans cette tradition familiale qui est à la fois pour une part ancrée dans les Cévennes, qui est pour une autre part ancrée ici même, et qui pour une part encore plus importante est marquée par le fait qu'il y a de l'avenir. Et au fond, ce baptême nous dit à quel point nous célébrons la vie et que nous entendons célébrer le fait que nous ajoutons de la vie à la vie. Alors, Isée, ce baptême sera ton baptême, nous ne le chargerons pas d'une symbolique particulière, mais nous sommes heureux de pouvoir profiter de ce moment tout à fait réjouissant, cela nous fait le plus grand bien. Vous avez souhaité qu'elle aussi puisse s'inscrire dans cette dynamique de foi qui consiste à pouvoir vivre sa spiritualité tout en développant un esprit critique, pouvoir s'inscrire dans une religion qui pousse à réfléchir, une religion qui fait droit à l'intelligence, et de pouvoir développer cette spiritualité qui donne toute sa place à la partie non matérielle de la vie. Baptiser, c'est pour nous une façon de répondre à cette exhortation que Jésus adresse à ses disciples. Cela est rapporté à la fin de l'Évangile selon Matthieu, où il est dit « Allez de toutes les nations faites des disciples » les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette promesse vient compléter cette exhortation « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu conclut avec son peuple et qu'il renouvelle de génération en génération. Le baptême ne dit pas que tu entres désormais, le baptême dit que tu fais partie de cette grande histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Par le baptême, Dieu nous manifeste son salut en Jésus-Christ. Et nous pouvons comprendre ce salut comme le fait que notre vie peut avoir du sens, comme le fait que ta place est marquée ici même. Nous te le rappellerons tout à l'heure. Et puis tu as un nom qui désigne la personnalité, un nom qui te donnait gratuitement, sans que tu aies rien fait pour le mériter. Un nom qui t'est offert pour te dire que la vie t'est offerte. Isée, nous sommes ici pour te dire que nous allons t'accompagner pour que tu grandisses en stature, en sagesse et en grâce. Nous t'accompagnerons sur ce chemin de foi. Avec toi, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, une vie de chaleur, une vie conviviale, une vie de tendresse. Et tu seras des nôtres pour bâtir un monde marqué par la justice, la paix et l'espérance. Je vous invite à vous approcher du baptistère. Isée, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Isée, entends bien que Dieu te bénit et te garde. Il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne. Il l'éclaire par la lumière de son amour. Ne crains pas, dit le Seigneur. Car je t'ai racheté, je te connais par ton nom, tu es à moi.
Frères et sœurs, voici Isée. Isée, voici ta famille spirituelle. Isée, cette grande maison est la tienne. Tu es ici, chez toi. Cette grande famille t'accueille comme l'un des siens, et nous serons heureux que tu puisses grandir parmi nous, que tu apprennes à y marcher, que tu apprennes à y parler, que tu y apprennes à débattre, à dialoguer, que tu y apprennes à aimer. Cette communauté est la tienne, tu auras liberté, bien sûr, de pouvoir occuper ou non cette place qui t'est offerte. Et à supposer que tu t'en éloignes, eh bien, nous serons témoins de la fidélité de Dieu en te disant que ta place est à jamais marquée. Et puis ce sera notre grande joie qu'un jour tu confesses avec nous que Jésus-Christ est Seigneur. Alors je vais maintenant vous donner la parole pour exprimer à Isée quelques mots qui, justement, tracent cet avenir que nous lui souhaitons.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à la vie. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez héberger leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes résident dans la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Isée, plus que jamais en ces heures sombres, nous espérons parvenir à te donner confiance en la vie. Nous aimerions t'aider à avancer sur le chemin que tu choisiras, même s'il diffère du nôtre, pourvu qu'il soit sous le signe de l'amour. Qu'il soit surtout le tien, et non celui que d'autres voudront tracer.
Isée, quand ta maman m'a proposé de devenir ta marraine, j'ai accepté avec joie et gravité. Dans les contes, la marraine est une bonne fée qui surgit avec sa baguette magique pour résoudre tous les problèmes. Dans la vraie vie, pas de baguette magique, mais j'ai bien mieux pour être presque aussi efficace. Des trésors de disponibilité, de volonté et d'amour. C'est en effet pour moi un engagement très sérieux que d'assister tes parents, ta famille et tes maîtres à te guider dans la vie. Ça commencera par quelques rendez-vous réguliers pour aller te chercher à la crèche, puis quand tu seras plus grande, à l'école. Te préparer un bon goûter, lire avec toi de belles histoires et faire le point sur la journée. Je serai là pour t'aider à répondre aux questions que tu te poseras forcément sur ce que tu auras appris et sur ce que tu auras vécu. Puis tu vois, une marraine, selon moi, s'allie beaucoup avec sa filleule. Et j'aurai ce grand plaisir à partager avec toi. Et surtout, je t'accompagnerai dans cette formidable découverte des mots qui permettent de nommer et donc de comprendre, de connaître les gens, les faits, les sentiments, les idées et ainsi de choisir librement ce qui va te construire. Je serai là pour t'aider à découvrir le monde avec bienveillance, à l'affronter avec confiance, pour t'aider à discerner ce qui est juste et bien dans tes actions et dans celles des autres, et à t'y tenir avec exigence. Bien sûr, nous serons nombreux à te guider vers la lucidité, mais comme c'est souvent un peu compliqué, une marraine n'est pas de trop. Je considère que je suis en renfort. Et s'il arrive que tout n'aille pas comme il faudrait, je ferai de mon mieux pour te consoler, pour te protéger et pour te permettre de reprendre ton chemin avec confiance. Alors dis-toi qu'on peut tout dire à sa marraine et que je serai toujours là, à tes côtés, avec amour, à portée de vue, à portée de parole, à portée de mes bras, Pour tout cela, tu peux compter sur moi, Isée.
Nous nous unissons dans la prière. Que sommes-nous sans toi, Éternel ? Qu'avons-nous à donner ? Devant un petit enfant qui attend tout de nous, nous mesurons notre pauvreté. Alors toi qui nous accordes le pain spirituel dont nous avons besoin, renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit, afin que nous puissions offrir à nos enfants tout ce que tu veux leur assurer par nous. Au nom de Jésus-Christ, qui fonde notre propre confiance. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, je vais vous lire au chapitre 4 le récit qui concerne cette femme qui vit en Samarie. À partir du verset 3, nous apprenons que Jésus quitta la Judée et repartit pour la Galilée, c'est donc le nord. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. La Samarie, c'est actuellement connue par Naplouse. C'est là où il y a le sanctuaire de Sichem, le mont Garizim, le lieu saint des Samaritains. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vivante. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où irais-tu donc chercher cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, « Je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu dis vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. »
car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Frères et sœurs, ouvrons notre recueil de chants au cantique 198. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Ô Dieu, nous le plaçons sous ta main. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons si souvent vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et il nous arrive trop souvent d'aller vers toi avec nos illusions. Alors donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Chers frères et sœurs, que faisait-elle là, cette femme ? Que faisait-elle là à midi, au plus chaud de la journée, alors que c'est le matin ou en fin de journée qu'on vient au puits pour puiser l'eau ? Manifestement, si cette femme vient à cette heure-ci, c'est pour éviter la présence d'autres personnes. C'est délibérément qu'elle se tient à l'écart du reste de la population, venant à une heure incongrue pour puiser l'eau dont elle a besoin. Elle ne veut pas de contact avec les autres. Certains commentateurs font l'hypothèse que c'est en raison de sa probable vie dissolue, puisqu'il sera dit qu'elle a eu 5 maris. Elle pourrait ne pas vouloir supporter les cancanages et les moqueries à son sujet. Mais nous verrons que les maris en question ne sont probablement pas des maris de chair et de sang, et que la question qui se joue n'est pas la question d'une vie plus ou moins dissolue de cette femme. Je forme donc l'hypothèse que la femme se tient à distance parce qu'elle a une grande crainte de l'impiété et des personnes impies. Comme cela sera indiqué dès que le dialogue s'engagera entre Jésus et elle, les frontières symboliques sont bien présentes à son esprit. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. D'un côté les Juifs, de l'autre côté les Samaritains. Et il n'est pas question de fréquenter les impies. Les mélanges sont récusés. Elle insistera lourdement sur tout ce qui la sépare du Juif qui se tient en sa présence. Cette femme, je forme l'hypothèse qu'elle s'est radicalisée ou qu'elle est en voie de radicalisation. Quant à Jésus, s'il est précisé qu'il lui fallait passer par la Samarie, je forme l'hypothèse que c'est pour y accomplir un devoir impérieux, une tâche qui lui incombe et à laquelle il n'entend pas se soustraire, déradicaliser cette Samaritaine, figure récapitulatrice de toute la Samarie, héritière du royaume du Nord, frère ennemi du royaume du Sud, Judas, la Judée, dont la capitale, Jérusalem, est en concurrence avec le sommet sacré de Samarie, le mont Garizim. Je forme l'hypothèse que Jésus intervient pour essayer d'enrayer un processus de radicalisation par 3 actions qui pourraient bien nous inspirer, tant elles sont à notre portée. Première action, lever les malentendus. Deuxième action, analyser le réel. Troisième action, valoriser les pulsions de vie. La lecture du texte biblique, même une lecture un peu rapide, une lecture un peu superficielle, fait tout de suite apparaître un quiproquo au sujet de l'eau. Jésus et la femme ne parlent pas de la même chose. Comment, dans ces conditions, pourraient-ils se comprendre ? Lever les malentendus, voilà la première chose à faire. C'est se débarrasser des déchets de la pensée. C'est se débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Un malentendu, c'est par exemple ce journaliste qui écrit dans une publication de la Fédération Baptiste en France que les morts du Bataclan ont subi le même sort que le mort qu'il y a eu lors de la chanson « Sympathy for the Devil »,« Sympathie pour le Diable », lors du concert des Rolling Stones à Altamont en 1969. Il précise, sous réserve qu'on ait conscience de l'existence d'un monde spirituel, il y a des choses ou des entités avec lesquelles on ne joue pas. Dans les deux cas, il est reproché d'avoir joué avec le diable, c'est le sens de cet article, et d'avoir été puni en conséquence, ce qui déjà laisse entendre que les assassins en question seraient effectivement le bras armé de la justice divine. Par ailleurs, et loin de moi l'idée de mettre Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, et René Girard sur le même niveau académique, mais dans ce cas, pourquoi ne pas dire non plus que René Girard est lui-même mort pour avoir fait, à un niveau universitaire, le travail que font parfois les chanteurs, les poètes, les artistes en général, mettre en évidence les mécanismes de violence. Cette chanson des Rolling Stones, qui est incriminée, montre justement la banalité du mal, la capacité que chacun de nous a de pouvoir être l'artisan du mal, ce qui est une manière d'être vigilant face à la violence collective, comme le fait dans un autre registre « Je vois Satan tomber comme l'éclair », cette étude de René Girard. La femme de Samarie parle d'eau matérielle. Jésus parle d'une eau qui n'est pas faite seulement d'oxygène et d'hydrogène. La femme parle de substance. Jésus parle d'un idéal de vie. Et les deux ne se comprennent pas. La rencontre n'a pas lieu tant que le malentendu n'est pas levé. Les rencontres avec des personnes revenues de Syrie, qui étaient parties pour ce qu'elles estimaient le bon combat, révèlent que ce n'est pas pour la gloire d'Allah qu'elles sont parties. Le plus souvent, ce sont des besoins matériels qui ont été couverts par des groupes ou par des personnes charismatiques qui sont à l'origine de leur départ. Ces gourous ont petit à petit mis la main sur ces personnes pour en faire ensuite ce qu'ils voulaient. On commence par rendre service, et puis ensuite une dette est contractée. Et alors on a la mainmise sur la trajectoire de la personne. C'est le système mafieux assez classique que l'on trouve aussi dans les églises d'ailleurs. Et bien de même que l'eau peut recouvrir plusieurs réalités, nous le comprenons dans ce texte biblique, le diable peut signifier des choses bien différentes. Certains penseront que le diable est une substance, une personne, un individu particulier. D'autres désigneront le diable comme des mécaniques de violence, une façon de désigner des choses qui sont effectivement à l'œuvre, mais qui ne sont pas des entités pour autant. Un nom de religion peut désigner des choses bien différentes, des pratiques bien différentes, des croyances bien différentes. Et après tout, notre protestantisme, lui aussi, est capable de générer du salafisme. Il convient donc de lever les risques de malentendus. C'est le premier travail de Jésus. Éviter les amalgames, pour reprendre l'expression tellement en vogue de nos jours, mais tellement nécessaire. Le terme même de djihad est tellement mal approprié. Car il y a un djihad spirituel dans l'islam. Et si on laisse ce terme confisqué par des radicalisés, alors les musulmans eux-mêmes sont dépossédés de leur propre spiritualité. C'est comme si on disait que tous les protestants sont des ardents défenseurs de la double prédestination stricte. Et encore, il vaut mieux être pour la double prédestination que pour bien d'autres choses. Premier point, donc, lever le malentendu, les malentendus. Et au malentendu sur l'eau fait suite une discussion sur l'état marital de la femme. Alors, de même que l'eau n'est pas de l'eau, les maris ne sont pas des maris. Et Jésus n'est pas omniscient. Jésus ne sait pas ce qui se passe dans l'alcôve de cette femme, parce que cette femme n'est pas une femme. Cette femme, c'est la Samarie. Ce dont il parle, c'est de l'histoire de la Samarie, au moment où elle est tombée aux mains des Assyriens. C'est à cette époque, en 722, que Sargon II, le roi d'Assyrie, a déplacé les peuples de 5 pays pour les installer en Samarie, avec leurs divinités respectives. Vous avez tout cela dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17. Le mari, dans les langues sémitiques, c'est le Baal. Baal, qui est l'autre nom des divinités des nations avoisinantes d'Israël. Jésus parle des divinités auxquelles la Samarie a été exposée. Et il parle du fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve sans mari, c'est-à-dire sans Dieu. L'alliance avec l'Éternel n'a plus cours. Cela a été déjà dit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17. Ce que fait Jésus, c'est d'analyser le réel, de reparcourir l'histoire pour comprendre les situations. Et voilà qui est autrement plus intéressant, je pense, que certaines analyses aussi fulgurantes que fausses, celle par exemple de ce rabbin, le Rav Shimon Ben Tov, qui il y a quelques jours, annonçait qu'aucun mort ne serait à déplorer dans la communauté juive concernant les attentats de la semaine dernière. Ce qui revient à dire, évidemment, que les 6 membres de la communauté juive qui ont été tués auront probablement été punis de ne pas avoir respecté scrupuleusement le Shabbat. ce qui fait également des terroristes à nouveau des agents de la justice divine. Eh bien, plutôt que ces analyses, il est plus intéressant d'examiner avec soin l'histoire des uns et des autres. Ces histoires qui les mènent à la radicalisation pour des motifs fort différents. Et je fais un peu de teasing. Je vous annonce que d'ici quelques numéros, Évangile et Liberté produira un dossier réalisé par Guillaume Monod qui intervient en centre pénitentiaire et qui justement est au contact de toutes ces trajectoires d'échec, de radicalisation ou de radicalisation empêchée. Eh bien, ici, Jésus prend appui sur l'histoire spécifique des Samaritains. Il ne prend pas une histoire fantasmée. Il prend l'histoire des Samaritains, l'histoire précise de la personne qui est son interlocutrice pour la rejoindre dans son univers. Jésus ne se contente pas d'approximations. Il ne fait pas une théorie générale sur la radicalisation, mais il permet à la Samarie de raconter son histoire propre et notamment ce qu'elle a fait pour exister. Car c'est bien de cela dont il est question dans le dialogue entre Jésus et cette femme. Comment s'y prendre pour ne pas disparaître, pour ne pas mourir de soif, étant entendu que la soif n'est pas matérielle? Comment survivre dans un monde qui ne veut plus de nous, dans une société où nous ne trouvons plus notre place? Voilà notamment ce que révèlent les dialogues avec ces jeunes qui ont été en voie de radicalisation. Je le répète, Jésus analyse le réel en convoquant l'histoire. Il ne réfléchit pas sur du ressentiment ou sur des impressions. Qu'il se réfère à l'histoire indique qu'il fait place à la raison, à la rationalité. À la fois, il tient compte de la situation spécifique et il s'appuie sur des faits pour s'adresser à la personne radicalisée. Il ne discute pas idéologie contre idéologie. Il prend en compte le cheminement, les différentes étapes qui ont conduit à la radicalisation. Oui, Jésus essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et il a raison. C'est la seule manière d'avoir ensuite un discours qui puisse porter, qui puisse avoir quelque effet que ce soit. C'est donc à ce moment que Jésus va prendre la parole plus longuement pour dire tout le fossé qui les sépare et un fossé qui va pouvoir se résorber. La situation peut s'arranger. Non pas parce que la femme se rangerait à la position de Jésus ou que Jésus se radicaliserait à son tour, mais parce qu'il y a une perspective commune par-delà les deux horizons respectifs, par-delà les deux positions qu'ils tiennent. Finalement, ce n'est ni le Garizim, ni Jérusalem qui sont l'horizon ultime, dit Jésus. L'un et l'autre envoient un universel supérieur. Ce que Jésus appelle le Père et qui sera adoré en esprit et en vérité, indépendamment d'un lieu, indépendamment d'un rituel spécifique, indépendamment d'un corpus doctrinal. Ce que fait Jésus, c'est d'offrir à la femme un idéal supérieur à l'idéal qu'elle s'était donné jusque-là. Ce que fait Jésus, c'est d'attirer la femme vers la perspective d'une vie autrement plus jouissive que ce qu'elle connaissait jusque-là. Et c'est d'ailleurs ainsi que Jésus a commencé l'entretien, dans une formule stupéfiante. Et la femme s'est aussitôt repliée sur elle-même. Souvenez-vous, la première parole que Jésus lui a adressée, c'est « Donne-moi à boire ». Alors vous me direz, c'est aussi banal que de demander l'heure à quelqu'un. Sauf que cela signifie bien plus, aussi bien pour Jésus que pour cette Samaritaine qui connaissent l'un et l'autre parfaitement la Torah. « Donne-moi à boire », c'est l'expression qui annonce la demande en mariage. C'est l'expression que l'on retrouve en Genèse 24, « Au puits qui sera celui de Jacob ». C'est lorsqu'on cherche une épouse pour Isaac. Et c'est lorsque Rebecca sera repérée pour devenir la femme d'Isaac. À la génération suivante, à ce même puits, Jacob y embrassera Rachel. « Donne-moi à boire ». On comprend mieux que la Samaritaine ait répondu à Jésus « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» En effet, on ne saurait imaginer qu'un juif puisse avoir une relation avec une Samaritaine. Une relation à tous les sens du terme. On ne saurait l'imaginer, du moins, dans la perspective des relations en miroir. On ne saurait l'imaginer si l'intégrisme l'emporte. On ne saurait l'imaginer si nous nous accordons sur les propos relayés par l'Union des Églises méthodistes, en France toujours. Un texte qui déclare « Nous avons produit le mal qui nous assaille. La présence de l'islam manifeste aujourd'hui notre infidélité à l'Évangile. » Outre l'absence d'analyse du réel, une telle affirmation va à l'encontre du projet porté par Jésus dans cet Évangile. Pour Jésus, il s'agit de faire alliance. Il s'agit de sortir de la répétition des scénarios qui mènent à la mort, qui mènent à l'exclusion. Il s'agit de faire alliance, il s'agit d'accomplir le désir frustré dont il est question toujours dans ce passage du deuxième livre des Rois au chapitre 17. Restaurer l'alliance avec l'Éternel. Autrement dit, renouer avec ce qui fait advenir la vie en plénitude. En disant à la femme qu'elle pourrait avoir de l'eau vivante, c'est un participe présent dans le grec. L'eau vive, c'est stagnant finalement. L'eau vivante, c'est ce qui bouge, c'est ce qui fait bouger, c'est vivifiant. Eh bien, Jésus met cette femme sur la piste d'une pulsion de vie en lieu et place du repli identitaire dont elle fait preuve. Elle qui est bloquée sur le puits de Jacob, dont elle fait un lieu sinon sacré, du moins exclusif. Jésus la met sur la possibilité de nouvelles alliances qui ne sont pas une infidélité à son histoire, mais au contraire, qui lui donneront une amplitude bien plus importante. Et c'est ça, l'un des secrets de la déradicalisation, c'est donner plus à espérer, de donner plus à rêver. Car en fait, ce sont des personnes qui ont soif et on peut se contenter de leur donner de l'eau plate, mais on peut aussi leur proposer cette eau vivifiante. Ce n'est pas à coup de pulsion de mort qu'on vient à bout d'autres pulsions de mort. Ce n'est pas à coup de loi liberticide qu'on défend non plus la liberté d'ailleurs. Ce n'est pas en figeant la vie qu'on la rend meilleure. C'est en nouant de nouvelles alliances, en croisant des horizons, y compris des horizons qui n'avaient rien de naturel à être en commun, en dépassant les affiliations à des chapelles particulières, qu'il est possible de célébrer pleinement la vie dont parle la Bible. À vrai dire, les ultras de Marseille, ces supporters qui détestent le Paris Saint-Germain, sont bien plus proches de l'attitude de Jésus lorsqu'il tend une banderole « Nous sommes Paris, boulevard Rabateau à Marseille » que n'importe quel religieux qui s'enferme dans son bréviaire. Les supporters anglais qui chantent la Marseillaise à Wembley sont bien plus fidèles à l'Évangile que n'importe quel religieux qui se contente de sa déclaration de foi. Dans cet épisode biblique, Jésus remet clairement en cause les frontières traditionnelles, les oppositions classiques, les clivages qui deviennent une part de notre identité. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous ne sommes pas comme les autres, et de préférence, nous sommes contre les autres. En vérité, nous pouvons exister sans être les ennemis de qui que ce soit. N'est-ce pas ce que dit le baptême d'ailleurs ? Nous n'avons pas besoin de prendre la place de quelqu'un pour avoir notre propre place. Nous n'avons pas besoin de prendre le nom de qui que ce soit pour avoir notre propre nom. Eh bien, dans un monde en tension, Jésus propose une convivialité qui n'ignore rien des conflits, lui-même les retraverse. Il ne fait pas preuve d'angélisme, quoique ce soit un mot qui prête vraiment à malentendu l'angélisme. Jésus n'ignore rien des histoires, mais il envisage qu'il y a plus à gagner ensemble que les uns contre les autres. La déradicalisation ne passe pas par la mise en cage. Cela, ce serait de l'immobilisation. Mais ce n'est pas parce qu'on immobilise quelqu'un qu'on le déradicalise. Cela aussi, Guillaume Monod le redira très bien. La déradicalisation passe par une réponse à la soif de vivre. Elle passe par des propositions plus intéressantes en forme d'idéal. Elle refuse de se contenter de l'eau plate, autrement dit de l'eau morte, de ce qui stagne. La déradicalisation passe par la résurrection du désir de vivre, d'être soi-même source de vie pour les autres, d'être soi-même source d'eau vivifiante, d'être soi-même transmetteur de pulsions de vie. Des pulsions de vie qui ne connaissent ni frontières, ni religion. Amen. Quel serait l'intérêt de notre patrimoine protestant s'il ne contenait pas une réserve importante de pulsions de vie ? C'est tout le sens de ce cantique 150 que nous allons pouvoir chanter. Nous chanterons toutes les strophes. Levons-nous pour bien chanter. pendant que je vais peut-être demander à notre sacristain d'allumer le micro pour les éclaireuses aînées, quelques informations déjà dans notre calendrier. S'il vous reste un peu de temps libre entre tous les apéritifs que vous prenez aux terrasses des cafés, lundi à 19h30, il y a le grec biblique pour les progressants. Mardi à 19h30 également, le grec biblique cette fois pour les débutants. À 20h, l'initiation théologique Salmono. Jeudi, la répétition du chœur est à 19h30, Salmono également. Samedi, il y a la permanence pour que vous puissiez déposer les objets que vous voulez offrir à la vente de l'entraide. C'est à partir de 14h, salle Roberti. Vente de l'entraide qui aura lieu du vendredi 4 décembre à midi jusqu'au samedi à 18h. Donc vous savez qu'il y a de nombreux stands ici même. Vous êtes invités à y venir à la fois pour la convivialité, pour acheter des choses qui pourraient vous être utiles et puis participer au financement des actions de l'entraide. Différents stands sont présents, de l'alimentation, des vêtements, des plantes. Il y aura aussi un atelier photographique pour les photos familiales, pour les cartes de vœux qui sera tenue par Karine Sicard-Bouvatier. Et des flyers sont à votre disposition pour pouvoir communiquer autour de vous. Il y aura un concert, le concert de l'Avent, qui sera donné le dimanche à 14h30. Retenez déjà cet horaire, qui sera donné par Isabelle Hureau, Sylvie Jugnot, Constance Luzzatti, Marion Hunal. Et il y a des repas, et notamment le repas du samedi midi. Et là, les tickets des repas sont déjà à la vente au comptoir librairie. Donc vous pouvez voir Jean-Claude Hureau qui se tient à votre disposition, qui a aussi un terminal de paiement électronique. Donc si vous n'avez pas de liquide, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il faut pour vous. Je vous laisse la parole pour que vous présentiez votre projet.
Donc bonjour à tous. Donc on est là pour vous annoncer l'avancement du projet de nous, les routiers de l'oratoire. Donc cette année, nous allons partir au Vietnam dans un centre qui s'appelle le My Hong Center, un centre pour enfants handicapés au Vietnam, donc dans la ville d'A Long. Donc le but, c'est en fait de participer à la vie de ce centre pendant notre séjour et notamment avec des activités autour de l'environnement, la forêt, peut-être dans une rizière, et donc pour aider également dans des rénovations de ce centre qui a subi un typhon aussi il y a 2 ans et 3 ans. Donc en fait, on serait là pour apporter donc ce qu'on peut, quelque chose donc là-bas. Et donc voilà, donc c'est le projet pour cette année, pour notre groupe de routiers. Voilà. Donc je laisse la parole à Romane pour vous annoncer.
Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les routiers de l'oratoire, lors des périodes de fêtes, vous livrent chez vous, si vous le souhaitez, des sapins de Noël. Cette année encore, nous nous engageons, si vous le souhaitez, à vous amener chez vous des sapins, donc de plusieurs tailles, qu'on ira chercher à Rungis. Si ça vous intéresse, on sera là-bas à la sortie pour prendre vos commandes. Et si vous avez envie de plus d'informations concernant notre projet, nous serons aussi disponibles pour vous en parler personnellement. Voilà, merci.
Avant de passer la parole à notre président, je vous informe aussi que le Foyer de l'Homme aura sa vente de l'amitié du vendredi 27 au samedi 28. C'est à partir de 17h, c'est rue du Pasteur Wagner.
Bonjour à tous et à chacun. Je n'ai qu'une communication à vous faire aujourd'hui. C'est avec regret que le Conseil presbytéral, que j'ai préalablement informé, prendra acte demain de la décision du pasteur James Woody de cesser son ministère dans notre paroisse à compter du 30 juin 2016. James m'a remis sa lettre de démission lundi dernier, le 16 novembre. Nous savons tous ce que nous a apporté James pendant toutes ces années passées à l'oratoire avec nous. Le conseil presbytéral tiendra sa réunion comme prévu demain et mettra en œuvre dans les meilleurs délais, en liaison avec les instances de la région, la recherche d'un nouveau pasteur qui, aux côtés du pasteur Marc Pernaud, dès le mois de juillet, si c'est possible, commencera un nouveau ministère ici et assurera la continuité des activités de la paroisse. Je reviendrai vers vous, bien sûr, dès que nous aurons de nouvelles informations à vous communiquer. Je redonne maintenant la parole à James pour la poursuite de cette annonce le concernant et je vous remercie de votre fraternelle attention.
Donc, nous serons ensemble jusqu'au 30 juin et au 1er juillet, je viendrai compléter l'équipe pastorale de Montpellier. J'occuperai plus spécifiquement le poste de Maglone, qui est proche de la gare. Donc, je pourrai éventuellement vous indiquer les horaires pour pouvoir être pile à l'heure avant d'aller ensuite au musée Fabre. Pour un poste, donc, le poste de centre-ville de Montpellier, avec comme dominante le tissage paroissial et le rayonnement du protestantisme à Montpellier. Voilà. Ensuite, la prière samedi prochain, effectivement. Samedi prochain, donc à 18h, ici même au temple ou dans la grande sacristie ? Ici même. Donc un temps de prière silencieuse qui sera organisé en alternance avec les cantates. Et donc, chaque samedi à 18h, vous pourrez, comme cela, profiter d'un temps. Vous avez eu sur le site internet quelques éléments relatifs à des phrases que vous pouvez méditer, qui donnent sens aussi à ce moment-là. Donc, samedi prochain, effectivement, à 18h au temple. Et donc, c'est maintenant le moment de l'offrande. Et bien que ce soit un temps de partage de responsabilités. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de sentir une présence qui accompagne, besoin de ressentir que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Rappelle-nous ta promesse d'être présent à nos côtés, à travers ces frères et ces sœurs que tu nous donnes, y compris dans nos moments de solitude, y compris lorsque notre vie est sombre comme la nuit. Aide-nous à orienter notre vie selon l'espérance que contient l'Évangile. Emplis-nous de foi et d'amour pour que nous marchions aussi joyeusement que possible sur nos chemins. Fais renaître sans cesse en nous le désir de te servir, le désir de servir la vie, de l'offrir, de la faire surabonder. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Et ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les hommes, de toutes les femmes, que nous demandons cette présence active. Que ton évangile rayonne sur cette terre. Et nous rassemblons nos prières, nos intentions, dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.